Chapitre 27. La terrasse surplombait le jardin de l'hôtel. Appuyé à la balustrade, Nicky essayait de calmer son inquiétude en s'abandonnant au murmure apaisant de la fontaine en vieux marbre. Un écrin végétal, touffu et verdoyant, entourait la demeure. Traversant le terrain, deux rangées de cyprès évoquaient un paysage toscan. Des pieds de vigne vierge aux couleurs automnales grimpaient le long du mur, disputant l'espace à des lianes de jasmin dont les fleurs blanches répandaient une odeur entêtante qui montait jusqu'à la chambre. Miné par un sentiment d'impuissance, Nicky tournait en rond depuis le départ de Sébastien. En d'autres circonstances, elle aurait goûté la poésie et la quiétude du lieu, mais l'angoisse la dévorait, crispant et contractant ses muscles, étouffant son cœur dans sa poitrine. Incapable de se détendre, elle regagna l'intérieur de la chambre et entreprit de se faire couler un bain. Pendant que l'eau montait dans la baignoire, emplissant la chambre de vapeurs légères, Nicky s'approcha du vieil électrophone posé au centre d'une étagère en bois blanchi. C'était un tourne-disque valise, typique des années 1960, avec un couvercle détachable qui faisait office de haut-parleur. Rangé sur les tablettes, une collection de vieux vinyles regroupait une cinquantaine de 33 tours. Nicky fit défiler rapidement les pochettes qui ne contenaient que des albums cultes, Highway 61 de Dylan, Ziggy Stardust de Bowie, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, The Velvet Underground de Nico. Elle arrêta son choix sur Aftermath, l'un des bons albums du temps où les Stones étaient encore les Stones. Elle mit la galette sur le plateau et posa la tête de lecture sur le micro-sillon. Dès les premières secondes, les riffs de Marimba et la ligne de basse d'Under My Thumb firent vibrer la pièce. On disait que Mick Jagger avait écrit cette chanson pour régler ses comptes avec le mannequin Chrissy Shrinton, avec qui il sortait alors. À l'époque, les féministes n'avaient pas aimé les paroles qui comparaient successivement la femme à un chien frétillant, puis à un chat siamois. Nicky, elle, trouvait le morceau plus complexe. Il parlait de la recherche de domination au sein du couple, du désir de revanche lorsque l'amour se change en haine. Elle se planta devant le grand miroir ovale en fer forgé et se déshabilla entièrement. Elle scruta son reflet sans complaisance. Venue du dehors, un rayon de soleil caressa sa nuque. Elle ferma les yeux quelques secondes et offrit son visage à la lumière, sentant sa peau qui s'animait sous l'effet de la chaleur. Avec les années, le galbe de sa silhouette s'était arrondi, mais grâce au sport qu'elle pratiquait intensivement, son corps était resté tonique. Elle avait des seins encore hauts, une taille fine et musclée, des jambes de chasseresse, des mollets fermes. Dans la volupté du moment, elle retrouva confiance en elle. À l'élection de Miss Cougar, tu gardes toutes tes chances, Mrs. Robinson. Elle ferma le robinet et se glissa dans le bain chaud en frémissant. Comme elle le faisait jadis, elle bloqua sa respiration et plongea la tête dans l'eau. Autrefois, elle pouvait tenir près de 2 minutes en apnée, un temps suspendu qu'elle utilisait pour mettre ses idées au clair. 10 secondes. Ce désir de rester jeune lui pourrissait la vie. Des années qu'elle s'épuisait à vouloir se rassurer sur sa capacité à séduire. La vérité, c'est qu'elle ne s'en croyait capable que par son physique. Elle plaisait aux hommes parce qu'elle était bandante. C'est son corps qu'il remarquait toujours en premier, jamais son charme, jamais son intelligence, son humour ou sa culture. 20 secondes. Mais sa jeunesse s'en allait. Les magazines féminins avaient beau titrer « 40 ans, c'est le nouveau 30 ans », tout ça, c'était de la blague. L'époque voulait du sang neuf, de la jeunesse, de la chair toujours plus fraîche. Déjà, dans la rue, elle sentait que les hommes ne se retournaient plus aussi fréquemment sur son passage. Un mois plus tôt, dans une boutique de Greenwich, elle avait été flattée de l'attention que lui portait le vendeur, un jeune mec charmant et bien foutu, avant de comprendre que ce n'était pas elle qu'il draguait, mais Camille. 30 secondes. Elle avait du mal à se l'avouer, mais elle avait été émue de revoir Sébastien. Il était toujours aussi invivable, obtus, injuste, coincé dans ses certitudes. Mais elle était rassurée de l'avoir à ses côtés pour traverser cette épreuve. 40 secondes. Lorsqu'ils étaient mariés, elle ne s'était jamais sentie à la hauteur. Persuadée que leur amour ne reposait que sur un malentendu, tôt ou tard, Sébastien finirait par se rendre compte de son erreur et la verrait telle qu'elle était vraiment. Elle avait vécu dans la peur d'être quittée. 50 secondes. Leur rupture lui semblait même tellement inéluctable qu'elle avait pris les devants, multipliant les amants, s'engageant dans une spirale destructrice et absurde qui avait fini par faire exploser leur couple, validant ainsi sa plus grande crainte, mais lui apportant aussi un soulagement paradoxal. À présent qu'elle l'avait perdu, elle ne craignait plus de le perdre. Une minute. Le compte à rebours défilait. La vie lui glissait entre les doigts. Dans 2 ou 3 ans, Jérémy partirait étudier en Californie. Elle resterait seule. 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 Toujours cette peur panique d'être abandonnée. D'où venait cette blessure? De l'enfance? De plus loin? Elle préférait ne pas y penser. 1 minute 10. Un frisson la saisit, elle sentit un tremblement au bas de son ventre. À présent, elle manquait d'oxygène. Le refrain de la chanson des Stones lui parvenait déformé, agrémenté d'un riff de Jimi Hendrix. Mon téléphone! Elle sortit brusquement la tête de l'eau et attrapa son portable. C'était Santos. Depuis la veille, il lui avait laissé nombre de messages tour à tour rageurs et amoureux. Dans l'affolement causé par les derniers événements, elle avait préféré ne pas lui répondre. Elle hésita. Ces derniers temps, Santos se révélait être un petit ami de plus en plus étouffant. Mais c'était aussi un bon flic. Et s'il avait découvert une piste concernant la disparition de Jérémy? Oui, fit-elle essoufflée. Nikki, enfin, ça fait des heures que j'essaye de te joindre. À quoi tu joues, bon sang? J'étais occupé, Lorenzo. Qu'est-ce que tu fous à Paris? Comment sais-tu où je me trouve? Je suis passé chez toi, je suis tombé sur les billets d'avion. Mais de quel droit t'es-tu permis? Heureusement que c'était moi et pas un autre flic, s'agaça-t-il. Parce que j'ai aussi trouvé la cocaïne dans la salle de bain. Mortifiée, elle garda un silence prudent. Il la poussa dans ses retranchements. « Réveille-toi, ma vieille. Il y a tes empreintes et celles de ton ex-mari sur une scène de crime sordide. Tu es dans la merde jusqu'au cou. » « Nous n'y sommes pour rien, » se défendit-elle. « Drake Decker était déjà mort à notre arrivée. Quant à l'autre, c'était de la légitime défense. »« Mais qu'est-ce que tu faisais dans ce trou à rats ?»« J'essayais de retrouver mon fils. Écoute, je t'expliquerai tout dès que je le pourrai. Tu n'as pas de nouvelles de Jérémy ?»« Non, mais je suis le seul à pouvoir t'aider. » Comment? Je peux tenter de ralentir l'enquête sur les meurtres de Decker à condition que tu rentres à New York le plus vite possible. D'accord, Nikki? D'accord, Lorenzo. Et ne te laisse pas influencer par Sébastien, menaça-t-il. Elle marqua une pause. Il fit des efforts pour se radoucir. Tu me manques, chérie. Je ferai tout pour te protéger. Je t'aime. Pendant plusieurs secondes, Santos attendit un « moi aussi » que Nikki fut incapable d'articuler. Un signal sonore l'avertit d'un appel simultané. Elle en profita pour mettre fin à la conversation. « Je dois te laisser. J'ai un autre appel sur la ligne. Je te donne des nouvelles bientôt. » Elle prit son nouvel interlocuteur sans laisser à Santos le temps d'émettre la moindre protestation. « Allô ?
Madame Larrabee ? Speaking. Ici la compagnie des croisières parisiennes, » annonça une voix en anglais. « Je vous appelle pour confirmer votre soirée. »
« Quelle soirée ?»
« Votre réservation pour un dîner excellence, ce soir à 20h30 sur notre bateau l'Amiral. »«
Vous êtes certaine de ne pas faire erreur ?»«
Nous avons une réservation au nom de Monsieur et Madame Larrabee, contractée il y a une semaine, » précisa l'hôtesse. « Dois-je comprendre que vous y renoncez ?»«
Non, nous y serons, » assura Nikki.
« 20h30, dites-vous, à quel endroit a lieu l'embarquement ?»«
Au pont de l'Alma, dans le 8e arrondissement. Une tenue de cocktail est souhaitable. » »«
Très bien. » acquiesça Nikki en notant mentalement les indications. Elle raccrocha. La confusion la plus totale régnait dans son esprit, le désordre, le chaos. Que signifiait ce nouveau rendez-vous? Était-ce là, au pont de l'Alma, qu'on allait enfin prendre contact avec eux? Et peut-être leur rendre Jérémy? Elle ferma les yeux et plongea de nouveau la tête sous l'eau. Pour y voir plus clair, elle aurait aimé pouvoir réinitialiser son esprit à la manière d'un ordinateur. Touche reset. Contrôle, Alt, Supprime. Son cerveau était bombardé de pensées négatives, d'images d'horreur tout droit sorties d'un cauchemar. Lentement, elle apprivoisa sa peur en se concentrant comme elle l'avait appris en séance de méditation. Peu à peu, ses muscles se détendirent. L'apnée lui faisait du bien. Le contact de l'eau chaude sur sa peau était un cocon protecteur. Le manque d'oxygène jouait comme un filtre, effaçant de sa conscience tout ce qui la polluait. Enfin, il ne resta plus qu'une image, un vieux souvenir longtemps refoulé, une capsule prisonnière du temps, un film amateur délavé qui la projeta 17 ans en arrière. au moment de sa deuxième rencontre avec Sébastien, au printemps 1996, à Paris. Nikki, 17 ans plus tôt. Jardin des Tuileries, Paris, printemps 1996.
On fait une dernière prise, les filles. En place, attention, ça tourne.
Devant le palais du Louvre, un bataillon de mannequins effectue pour la 10e fois une scénographie sophistiquée. Pour cette publicité, la maison de haute couture a mis les moyens. Réalisateur de renom, costumes somptueux, décors grandioses, pléthore de figurantes encadrant la star choisie par la marque pour devenir son icône. Je m'appelle Nikki Nikovsky. J'ai 25 ans et je suis l'une de ses filles. Pas le supermodèle du premier plan, non. Seulement l'une de ces anonymes sans grade qui défile au quatrième rang. Nous sommes au milieu des années 1990. Une poignée de top modèles, Claudia, Cindy ou Naomi, ont réussi à devenir des stars et amassent consciencieusement des fortunes. Mais je ne vis pas sur la même planète. Joyce Cooper, mon agent, n'a d'ailleurs pas pris de gants pour me le faire remarquer. Tu peux déjà t'estimer heureuse d'être du voyage à Paris. Ma vie n'a rien du conte de fées pipeau que serinent les mannequins vedettes dans les magazines. Je n'ai pas été repéré à 14 ans sur une plage ou dans un centre commercial par un photographe de l'agence élite qui passait par hasard dans mon bled du Michigan. Non. J'ai commencé le mannequinat sur le tard, à 20 ans, en arrivant à New York. Vous ne m'avez jamais vu en couverture de Elle ou de Vogue, et si je défile parfois sur les podiums, ce n'est que pour des couturiers de second rang. Jusqu'à quand mon corps va-t-il tenir? J'ai mal aux pieds et au dos. J'ai l'impression que mes os menacent de se briser. Mais je me concentre pour faire bonne figure. J'ai appris à figer mon sourire, à mettre en valeur mes jambes galbées et ma poitrine, à adopter une démarche légèrement chaloupée, à placer dans chacun de mes gestes une grâce de sylphide. Mais ce soir, la sylphide est épuisée. Je suis arrivé par avion ce matin et je repars demain. Pas vraiment des vacances. Les derniers mois ont été difficiles. Mon bouc sous la main, j'ai passé l'hiver à courir les castings. Train de banlieue pour Manhattan à 6h du matin, shooting dans des studios mal chauffés, tournage low cost pour des pubs bas de gamme. Chaque jour me confronte un peu plus à ce constat implacable. Je ne suis plus assez jeune. Je ne possède pas cette petite étincelle qui me permettrait de devenir Christy Turlington ou Kate Moss. Et surtout, je vieillis déjà.
Coupé ! Crie le réalisateur. Ok, c'est bon les filles. Vous pouvez aller faire la fête, Paris vous appartient.
Tu parles. La production a dressé des loges sous des tentes. La lumière de cette fin d'après-midi est belle, mais il fait un froid de canard. Tandis que je me démaquille dans un courant d'air, une stagiaire de Joyce Cooper m'interpelle.
Désolée, Nikki. Il n'y avait plus de place au Royal Opera. On a dû changer d'hôtel.
Elle me tend une feuille de papier sur laquelle est imprimée l'adresse d'un établissement du 13e arrondissement.
Tu te fous de moi? Vous n'avez pas trouvé encore plus loin? Pourquoi pas en banlieue tant que vous y êtes?
Elle écarte les bras en signe d'impuissance.
Désolée, c'est les vacances scolaires, tout est complet.
Je soupire, change de chaussures et de vêtements. L'ambiance est électrique. Les filles sont surexcitées. Il y a une fête organisée dans les jardins du Ritz. Lagerfeld et Galliano y seront.
Quand j'arrive sur place, mon nom ne figure pas sur la liste magique des invités.
« Tu viens prendre un verre avec nous, Nikki ?» me demande un des photographes de plateau.
Il est accompagné d'un copain, un caméraman qui me reluque depuis le matin. Pas une seconde, je n'ai envie de suivre ces tocards, mais je ne leur dis pas non. Trop peur de me retrouver seul. Trop besoin de me sentir désiré, fût-ce par des gens que je méprise. Je les suis dans un bar de la rue d'Alger. Nous enchaînons des shots de kamikaze, cocktails sournois à base de vodka, de cointreau et de citron vert. L'alcool me réchauffe, me détend et me monte vite à la tête. Je ris, je blague, je fais bonne figure. Je déteste pourtant ces photographes pervers, prédateurs de chair fraîche. Je connais leur technique, saouler les filles, leur donner un peu de coke, revenir inlassablement à la charge, profiter de leur fatigue, de leur solitude, de leur désarroi.
« You're awesome, so sexy, so glamorous. »
Ils me voient comme une proie facile. Je ne fais rien pour les détromper. Je carbure à ça, à la flamme dans le regard que je suscite chez les hommes, même des bourrins comme ces deux-là. Tel un vampire, je me nourris de leurs désirs. Du monde de la mode, je ne vois plus ni le glamour ni les paillettes. Désormais, tout n'est qu'épuisement, lassitude, compétition. J'ai compris que je n'étais qu'une image,
une femme jetable, un produit proche de sa date de péremption. Les types se rapprochent, me frôlent, leurs gestes se font plus osés. Pendant un moment, ils imaginent que je vais les suivre dans leur projet de plan à trois. Le soir tombe, je regarde les lumières qui s'allument jusqu'au moment où les mecs se font vraiment trop pressants. Je me lève d'un bond, tant qu'il me reste un peu de lucidité. Je quitte le café en traînant ma valise. J'entends des insultes dans mon dos. Allumeuse, pétasse. Business as usual. Dans la rue de Rivoli, impossible de hailer un taxi. Je me rabats sur le métro. Station Palais-Royal. Après un coup d'œil au plan affiché sur le quai, je prends une rame et me laisse porter le long des stations de la ligne 7. Pont-Neuf, Châtelet, Jussieu, Les Gobelins. Il fait nuit lorsque j'arrive place d'Italie. Je pense que mon hôtel est proche, mais en réalité, il me reste encore de longues minutes de marche. Il commence à pleuvoir. Je demande mon chemin, mais on m'envoie promener parce que je ne parle pas français. Drôle de pays. Je remonte la rue Bobillot en tirant ma valise dont les roues se sont bloquées. Il pleut de plus en plus. Ce soir, je me sens fané et vulnérable. Seul comme jamais. La pluie ruisselle le long de mon corps et tout se fissure en moi. Je pense à l'avenir. En ai-je seulement un? Je n'ai pas un sou vaillant. En 5 ans de métier, je n'ai pas mis $1 de côté. La faute à un système organisé pour vous maintenir dans un état de dépendance. Les agences de mannequins sont très fortes à ce petit jeu, et souvent je ne travaille que pour rembourser leurs commissions et les frais de voyage. En grimpant sur le trottoir, je casse un de mes talons, et c'est en clopinant mes chaussures à la main et ma dignité en berne que j'arrive enfin à la butte aux cailles. Je n'ai jamais entendu parler de ce quartier qui domine Paris. À cette époque, l'endroit ressemble encore à un petit village hors du temps. Ici, pas de grandes avenues ou d'immeubles haussmanniens, mais de petites rues pavées et des maisons provinciales. J'ai l'impression d'être Alice, tombée de l'autre côté du miroir. Situé rue des 5 Diamants, mon hôtel est un vieil immeuble étroit à la façade un peu délabrée. Exténué, trempé, je débarque dans le hall miteux et tends à la logeuse l'imprimé de ma réservation.
Chambre 21, mademoiselle, votre cousin est arrivé il y a 1 heure, m'annonce-t-elle sans me donner ma clé.
My cousin? What are you talking about?
Je ne connais que quelques mots de français, elle ne parle pas l'anglais, même si une affichette affirme le contraire. Au bout de 5 minutes de baragouinage, je comprends confusément qu'un Américain a pris possession de ma chambre 1 heure auparavant en se présentant comme mon cousin. Je lui réclame une autre chambre, elle me répond que l'hôtel est complet. Je lui demande d'appeler la police, elle me dit que l'homme a déjà réglé la chambre. Que signifie cette histoire de fou? En fureur, je prends l'escalier en laissant ma valise au milieu du passage et monte au 2e étage pour tambouriner contre la porte de la chambre 21. Pas de réponse. Sans me démonter, je sors dans la rue et contourne l'hôtel par la petite impasse pavée. Je repère la fenêtre de la chambre de l'usurpateur et y balance un escarpin. Je rate ma cible, mais j'ai une 2e munition. Cette fois, ma chaussure s'écrase contre la vitre. Quelques secondes s'écoulent avant qu'un homme ouvre enfin les croisées et y passe une tête.
« C'est vous qui faites ce raffut ?» se plaint-il.
Je n'arrive pas à y croire. C'est Sébastien Larrabee, le luthier coincé de Manhattan. J'ai du mal à contenir ma colère.
« Qu'est-ce que vous fichez dans ma chambre ? J'essayais d'y dormir, figurez-vous, enfin, avant que vous ne fassiez tout ce boucan. Vous allez me faire le plaisir de déguerpir ?»«
Je ne crois pas, non, » répondit-il avec flegme.
« Sérieusement, pourquoi êtes-vous à Paris ?»«
Je suis venu pour vous voir. »«
Pour me voir ? Mais en quel honneur ? Et comment m'avez-vous retrouvé ?»«
J'ai mené ma petite enquête. »
Je soupire. Bon, ce mec est dingue. Il doit faire une fixation sur moi. Ce n'est pas la première fois que je croise un détraqué, pourtant... Celui-là avait l'air normal, gentil, doux.
J'essaie de prendre un air détaché.
Qu'attendez-vous de moi, au juste ?
Des excuses.
Ah bon, et pourquoi ?
D'abord pour m'avoir volé mon portefeuille il y a 3 mois. Mais je vous l'ai rendu, c'était un jeu, un moyen de connaître votre adresse. Il aurait suffi de me la demander, je vous aurais même peut-être invité.
Oui, mais ça aurait été moins drôle.
Un lampadaire éclaire les pavés mouillés de l'impasse. Sébastien Larrabee me toise de son beau sourire.
Ensuite, je vous reproche de vous être enfui sans m'avoir laissé votre adresse.
Je secoue la tête.
La belle affaire! On a quand même couché ensemble, il me semble.
Et alors?
Je couche avec tout le monde, dis-je pour le provoquer.
Eh bien, ce soir, vous coucherez dehors, tranche-t-il en refermant la fenêtre.
Il fait nuit et froid. Je suis fourbu, mais surprise. En tout cas, je n'ai pas l'intention de me laisser traiter ainsi par ce malotru.
Très bien, vous l'aurez voulu.
Il y a un conteneur en plastique à l'angle de la ruelle. Malgré la fatigue, je monte sur la poubelle et grimpe le long du conduit de la gouttière. En équilibre sur un bac à fleurs, je marque une pause au premier étage avant de reprendre mon ascension. Le visage tendu vers le ciel, je vois Sébastien se décomposer à travers la vitre. Les yeux grands ouverts, il me regarde avec affolement.
« Vous allez vous briser le cou !»
hurle-t-il en ouvrant brusquement la fenêtre. Surprise, j'esquisse un mouvement de recul qui me fait perdre l'équilibre. Alors que mes appuis se dérobent, je me rattrape in extremis à la main qu'il me tend.
« Vous êtes inconsciente !»
m'engueule-t-il en me hissant sur le rebord de la fenêtre. Une fois hors de danger, je la grippe par le col, puis lui martèle le torse de coups de poing.
« C'est moi qui suis inconsciente, espèce de malade! Vous avez failli me tuer !»
Surpris par ma virulence, il se dégage tant bien que mal. Furieuse, j'empoigne sa valise ouverte au pied du lit et prends de l'élan pour la projeter par la fenêtre. Il me coupe dans mon mouvement, m'entoure de ses bras.
« Calmez-vous !» implore-t-il.
Son visage est à quelques centimètres du mien. Il a un regard franc et honnête. Il dégage une humanité qui le rend rassurant. Il sent bon. Une odeur d'eau de Cologne que devaient utiliser les hommes de la génération de Cary Grant. Je me sens soudain très excité. Je lui mords la lèvre, le pousse sur le matelas et lui arrache les boutons de sa chemise. Le lendemain matin. La sonnerie du téléphone me réveille en sursaut. La nuit a été courte. Les yeux pleins de sommeil, j'attrape le combiné et me redresse contre l'oreiller. Au bout du fil, la logeuse jargonne quelques phrases en anglais. Je cligne les paupières. Une lumière douce filtre à travers les rideaux de dentelle de cette chambre minuscule. Tandis que je reprends mes esprits, j'entrouvre du pied la porte de la salle de bain. Personne. Sébastien Larrabee m'aurait-il abandonné? Je demande à la propriétaire de répéter distinctement.
« Your cousin is waiting for you at the coffee shop just around the corner. »
Mon cousin m'attend dans le café du coin de la rue. Eh bien, il peut toujours attendre. Je me lève d'un bond, prends une douche express et rassemble mes affaires. Je descends l'escalier, récupère ma valise qui est restée dans le hall. Je croise la logeuse derrière son comptoir, puis passe une tête dans la rue. Le café est à une centaine de mètres à gauche. Je pars à droite en direction du métro. J'ai parcouru 20 mètres lorsque la propriétaire me rattrape.
« I think your cousin kept your passport »,
me dit-elle l'air de ne pas y toucher. Épargné par la modernité, le café Le Feu Vert donne l'impression d'avoir été téléporté depuis les années 1950. Comptoir en zinc, nappe Vichy, banquette de Moleskine, table en formica. Accroché au mur, l'ardoise rappelle les plats proposés la veille. Saucisson pistaché, pied de porc, andouillette de Troyes. Lorsque je débarque en furie dans le troquet, j'aperçois Sébastien attablé au fond de l'établissement. Je me plante devant lui et le menace.
« Vous allez me rendre mon passeport !»«
Bonjour, Nicky. Moi aussi, j'espère que tu as bien dormi, » me dit-il en me tendant ma pièce d'identité. « Assieds-toi, je t'en prie. J'ai pris la liberté de commander pour toi. » Affamé, je capitule devant le plantureux petit déjeuner. Café au lait, croissant, tartines, confiture. Je prends une gorgée de café et déplie ma serviette pour découvrir un paquet entouré d'un ruban. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Un cadeau. »
Je lève les yeux au ciel. « Vous n'avez pas à me faire de cadeau parce qu'on a couché deux fois ensemble. C'est quoi votre nom déjà ?»«
Ouvre-le. J'espère que ça va te plaire.
Inutile de t'inquiéter, ce n'est pas une bague de fiançailles. » Je déchire le papier en soupirant. C'est un livre. Une édition limitée de « L'amour au temps du choléra », illustré, superbement relié et signé de la main de Gabriel Garcia Marquez. Je secoue la tête, mais je suis touché par l'intention. J'ai la chair de poule. C'est la première fois qu'un homme m'offre un livre. Je sens les larmes qui montent, mais je les refoule. Ce geste me touche plus que je ne le voudrais. « À quoi joues-tu exactement ? » dis-je en repoussant le roman. « Ça doit coûter une fortune. Je ne peux pas l'accepter.
« Pourquoi ? » ?»«
On ne se connaît pas.
On peut apprendre à se connaître. »
Je tourne la tête. Un couple de petits vieux traverse la rue sans que l'on sache très bien lequel sert de béquille à l'autre. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Juvénile et téméraire, Sébastien se lance avec candeur.
« Depuis 4 mois, je me réveille tous les matins avec ton image dans la tête. Je pense à toi tout le temps. Plus rien d'autre ne compte. »
Je le regarde consterné. Je comprends que ce n'est pas du baratin et qu'il y croit vraiment. Pourquoi ce mec est-il si naïf, si attachant? Je me lève pour partir, mais il me retient par le bras. Laisse-moi 24 heures pour te convaincre. Me convaincre de quoi? Qu'on est fait l'un pour l'autre. Je me rassois et lui prends la main. Écoute, Sébastien, tu es gentil et tu fais très bien l'amour. Je suis flatté que tu aies un coup de cœur pour moi et je trouve très romanesque que tu aies fait ce voyage pour me retrouver. Mais soyons réalistes. Nous n'avons aucune chance de parvenir à construire quelque chose ensemble. Je ne crois pas à la fable de la bergère qui épouse le prince charmant et tu serais sexy en bergère. Sois sérieux, s'il te plaît. Nous n'avons rien en commun. Tu es un wasp, un télo, tes parents sont millionnaires, tu vis dans une maison de 300 mètres carrés et tu fréquentes le gratin de l'Upper East Side. Et alors, me coupe-t-il. Et alors? Je ne sais pas ce que tu projettes sur moi, mais je ne suis pas celle que tu imagines. Il n'y a rien que tu puisses vraiment aimer chez moi. Tu ne cherches pas un peu la barque, là? Non, je suis instable, infidèle et égoïste. Tu ne parviendras pas à me transformer en gentille petite femme attentive et attentionnée. Et je ne tomberai jamais amoureuse de toi. Donne-moi 24 heures, demande-t-il. 24 heures juste toi, moi et Paris. Je secoue la tête. Je t'aurais prévenu. Il sourit comme un enfant. Je suis persuadé qu'il va se lasser rapidement. Je ne sais pas encore que je viens de rencontrer l'amour. Le seul, le vrai, l'incendiaire. Celui qui vous donne tout avant de tout vous reprendre. Celui qui illumine une vie avant de la dévaster pour toujours.